Les journées de l'économie. GECO.
GECO, l'édition 2013.
Donc bonjour Pierre-Noël Giraud, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions durant l'événement donc, des GECO pour lequel vous êtes intervenu aujourd'hui pendant trois conférences. Donc quelques mots pour vous présenter. Donc Pierre-Noël Giraud, vous êtes professeur d'économie à l'École des Mines de Paris. Vous êtes également chercheur d'économie, en économie, je veux dire. Vous menez vos recherches au sein du CERNA, qui est le Centre d'économie industrielle et de finances, je crois, de l'École des mines de Paris. Pardon.
Oui, oui.
Vous menez des travaux sur la globalisation, sur les inégalités, la croissance urbaine aussi, parmi d'autres thèmes, bien sûr. Et donc, vous êtes intervenu pour les GECO sur le thème de l'Afrique ce matin, sur l'industrie française, mais également sur les ressources énergétiques, notamment le gaz de schiste cet après-midi. Donc, nous avons des questions relatives à ces trois conférences. Donc, voilà.
Alors, je vais commencer par une question sur la conférence, donc la concurrence du tel industrie qui a eu lieu cet après-midi. Excusez-moi, ce matin. Le rapport Gallois a été évoqué par plusieurs intervenants lors de cette conférence. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui vous semble essentiel dans ce rapport ?
Résumé de manière très schématique, le rapport Gallois préconise des mesures dans plusieurs domaines qui doivent être prises en parallèle et de façon prolongée, soutenue, pendant un an, pendant une dizaine d'années au moins. Bon, il y a des mesures qui ont été les plus controversées, les plus discutées, qui concernent le coût du travail en France. Il était inférieur à celui de l'Allemagne, il est passé 11% au-dessus, alors que la qualité des produits allemands reste supérieure à la qualité moyenne des produits français et que cet écart a plutôt tendance à s'accroître. Donc il est tout à fait certain que cette divergence est un des aspects importants du regain de compétitivité de l'industrie française pour de nouveau être à parité avec l'Allemagne et d'ailleurs pouvoir discuter avec l'Allemagne en étant crédible. Des problèmes qui se posent au niveau d'une éventuelle politique industrielle européenne. Vous voyez. Pour l'instant, on n'est pas en situation de force pour discuter avec les Allemands, parce que les Allemands nous disent à juste titre, commencez par régler les problèmes que vous avez au niveau national. Alors, c'est bien le but du rapport Gallois de proposer un ensemble de politiques dans ce domaine. Donc, la première mesure macroéconomique, c'est qu'il faut trouver les moyens d'alléger le coût du travail en France, quitte à faire une espèce de pause dans les salaires réels, pour que les entreprises reconstituent leurs marges pour investir. Alors évidemment, il faut qu'elles investissent. Le deuxième type de... Bon, il faut que les entreprises investissent, qu'elles investissent pour monter en gamme, pour se robotiser. Il y a beaucoup moins de robots en France qu'en Allemagne et même qu'en Italie, dans les entreprises manufacturières. Bon. Et donc pour ça, il faut éventuellement que le gouvernement les y incite. Alors c'est déjà le cas avec le crédit impôt recherche. Bon, il y a là matière à au moins poursuivre les politiques. Il y a pas mal à faire aussi pour favoriser la diffusion des meilleures technologies, et surtout des meilleures pratiques, parce que on sait bien que la difficulté du changement technique dans une entreprise, c'est qu'elle est aussi, le changement technique est toujours en même temps un changement organisationnel, qui souvent d'ailleurs, avec les techniques actuelles, réduit le nombre de niveaux hiérarchiques, donc se heurte à une rigidité de la structure hiérarchique de l'entreprise, etc. C'est le troisième chantier, ça. C'est que les entreprises se transforment en profondeur dans leur relation avec leurs employés, avec leur, leur, que les relations entre les techniciens, les ouvriers, les ingénieurs se transforment un peu. Alors là, pour le coup, l'Allemagne est un modèle. L'Allemagne n'est pas un modèle en tout, mais là, l'Allemagne est un modèle. Hein. On a constaté que pour deux entreprises de même taille, une française et une allemande, dans le même métier, il y avait beaucoup plus d'encadrement, mais de petits encadrements type régleur, contremaître, en France qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup moins de hiérarchie comme ça technique. Et deuxièmement, en Allemagne, il y a une mobilité des employés dans les entreprises vers le haut. C'est-à-dire qu'en Allemagne, un jeune qui rentre après l'apprentissage ouvrier dans une entreprise, il peut finir directeur de l'usine. C'est tout à fait possible. Il va se former, il va être technicien, puis technicien supérieur, puis ça suffit pour diriger une usine peut-être, ou ingénieur, etc. Bon. En France, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, vous voyez, ça embraye sur le chantier suivant, qui est celui de la formation, également très important dans le rapport Gallois. La formation initiale, qui en France n'est pas orientée vers les métiers de l'industrie, qui sont mal connus, mal aimés des jeunes, mais mal aimés parce que mal connus en vérité. La dimension, comment dire, faire en sorte que les jeunes Français aiment à nouveau leur industrie, qui a été évoquée dans la table ronde, c'est une dimension très importante. Sauf que il faut prendre des mesures concrètes. Et les mesures concrètes ne peuvent se prendre qu'au niveau local. Il faut tout simplement que les entreprises fassent l'effort d'organiser de manière systématique des visites de classe et que, une fois dans sa vie scolaire, disons, que chaque élève ait pu visiter une entreprise manufacturière, voir comment ça se passe, vu qu'on constatait que c'est propre, que c'est pas sale, dégueulasse et bruyant, etc., que c'est bien payé, par rapport à être caissier dans un supermarché, quoi. Bon. Donc il y a une question de formation initiale et une question de formation permanente, évidemment. Je l'évoquais à propos de l'Allemagne. Pour qu'un ouvrier puisse devenir un directeur d'usine, il faut une formation permanente. C'est un chantier très important. Et puis, vous avez le chantier des filières, des rapports entre les entreprises qui donnent donneurs d'ordre, les sous-traitants qui pourraient être améliorés, ces rapports. Et puis vous avez enfin tout ce qui concerne l'encastrement des entreprises dans un tissu local, c'est-à-dire la constitution de clusters, de regroupements d'entreprises, avec un rapport avec des centres de recherche, des universités, des prestataires de services aux entreprises, etc. C'est une dimension territoriale, si vous voulez, de développement industriel qu'il ne faut pas du tout négliger. Mais voilà quelles sont, dans les grandes lignes, les préconisations du rapport Gallois. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que si on fait ça sérieusement, avec continuité et en articulant toutes les mesures, il faut pas, elles se tiennent toutes les unes aux autres, sachant qu'il y va de modification de comportement, de rapports sociaux, donc ça prendra du temps. Hein. Bon, mais en 10 ans, on peut très bien rétablir notre compétitivité industrielle par rapport à l'Allemagne en gardant nos spécificités. Et à ce moment-là, on peut envisager, ou pendant ce temps-là, disons, quand on a bien engagé les réformes, on peut envisager de discuter avec les Allemands de deux autres problèmes qui me paraissent importants. Hein, j'anticipe un peu peut-être vos questions, qui sont que si on a en Europe uniquement une politique de concurrence, à la fois entre firmes européennes et avec l'extérieur, ça produit assez naturellement à des concentrations d'activités. Par exemple, l'industrie manufacturière va se concentrer dans le nord de l'Europe et l'est de l'Europe, parce que dans le nord de l'Europe, Allemagne et le nord de l'Europe, qui développent comme hinterland l'est de l'Europe. Pendant ce temps-là, le sud se désindustrialise, la France est entre les deux. Or, ça, c'est pas possible durablement, parce que le sud ne peut pas vivre. Ne pas importer tous les biens et services liés à l'industrie manufacturière avec en vendant des produits agricoles, vin et huile d'olive et du tourisme. C'est pas possible. Et donc, s'il y a des déséquilibres commerciaux, il y a un endettement, donc il faut soit transférer énormément de fonds publics, ce que n'accepteront pas les citoyens du Nord. Bon, soit il va falloir se résoudre, parce que c'est comme ça que ça se résout, au sein d'une même zone monétaire, par des transferts importants de population, ce qui sont peut-être plus difficiles en Europe, on ne sait rien, on n'a qu'à essayer, qu'ils le sont aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est ça qui assure une certaine homogénéité du territoire américain, une convergence des économies, c'est que, bon, quand une économie faiblit, c'est les gens qui se déplacent. Ce n'est pas les investissements, c'est les gens. Alors, nous, si on ne veut pas que les gens se déplacent massivement, il faut que les investissements se déplacent. C'est les gens ou les investissements. Ça ne peut pas être les fonds publics. Les fonds publics, c'est un palliatif à court terme. Bon. Alors, pour que les investissements se dépassent, il faut trouver des moyens de réindustrialiser l'Europe du Sud. On peut le faire peut-être avec les pays émergents, en disant aux Chinois, venez, venez en Europe, venez investir en Europe, mais plutôt en Europe du Sud. Comme eux, d'ailleurs, disent, vous venez investir chez nous, mais vous allez plutôt dans telle province. Maintenant, c'est fini celle-là, c'est dans telle autre, hein, etc. Bon, bref, dans bien des domaines, on pourrait prendre l'exemple des Chinois. Et à l'échelle de l'Europe, bien sûr, et se demander si on n'a pas intérêt à mettre en place des politiques industrielles, à la fois d'innovation et territoriale, comme ça, hein, éviter les déséquilibres géographiques au sein de l'Europe. On pourrait faire un grand marchandage avec les Chinois. Bienvenue en Europe, mais avec une politique d'ensemble. Voilà.
À ce propos, Pierre-Noël Giraud, je voulais revenir sur cet aspect-là que vous disiez. Une des réformes que vous préconisez, ce serait d'investir ou d'orienter les ICE vers les pays du Sud qui sont désindustrialisés. Mmh. Mais justement, comment créer cette incitation, sachant que la science économique nous dit que là où la concentration industrielle a déjà eu lieu, la productivité est plus importante et donc les investisseurs affluent davantage. Et donc, comment détourner en fait ce phénomène-là qui est auto-entretenu?
Mais oui, c'est en effet un phénomène, l'économie d'agglomération. Hein, je citais ce matin l'exemple, imaginons un Brésilien qui veut investir pour créer une usine de mécanique de précision en Europe, il va aller la localiser évidemment en Bavière ou en Autriche, et pas en Grèce, ou en Andalousie, ou sur le Larzac. Bon. Mais justement, le but de la politique industrielle, c'est de complémenter, non pas de corriger ce que le marché n'obtient pas spontanément. Plutôt, quand le marché obtient des phénomènes comme, par exemple, de fortes agglomérations géographiques avec des pôles d'accumulation d'emplois et puis des déserts à côté, alors où c'est les populations qui migrent, où il faut faire en sorte que ces pôles soient mieux répartis sur le territoire. Hein, il pourrait y avoir des zones d'industrie manufacturière prospère et florissante en Europe du Sud. D'ailleurs, il y en a en Italie. La troisième Italie, ça reste un espace très industrialisé qui s'en sort pas si mal. Il y en a en Catalogne. Donc, c'est pas impossible. Et c'est pas au détriment. Il ne s'agit pas de gérer la pénurie. Il s'agit de trouver des moyens de faire en sorte ce qui est à la fois une réindustrialisation de l'Europe dans son ensemble qui réduise les déséquilibres au sein de l'Europe. Bon, alors, moi, je n'ai pas énormément d'idées là-dessus. Je dis, appuyons-nous sur les investissements directs étrangers. À l'heure actuelle, les pays émergents n'ont qu'une envie, c'est d'aller investir, de faire de bons investissements pour eux. Bon, comme l'Europe reste quand même un marché, le premier marché du monde, malgré tout, en termes de pouvoir d'achat, on a un pouvoir de négociation. Alors qu'aujourd'hui, on est largement ouvert, sans contrepartie, et on joue dans un jeu mondial où les autres sont ont des politiques mercantilistes, y compris les États-Unis, et nous, on a une politique libre-échangiste. Bon. Si on était archi-dominant, ce serait pas grave, parce que comme on sait bien, et l'exemple de l'Angleterre au XIXe siècle l'a montré, quand vous êtes la puissance dominante, vous avez intérêt à être libre-échangiste. Bon. Même si les autres ne le sont pas, c'est pas grave. Bon. Là, c'est pas le cas. Donc, on est avec des puissances qui font le jeu à peu près égal hein, sur le long terme, mais vraiment, parce que la Chine, maintenant, c'est vraiment un concurrent sur tous les plans. Les deux autres ont une unité de commandement et des politiques stratégiques, et nous n'en avons pas. Donc on ne joue pas à armes égales dans cette affaire. Donc il faut un peu réfléchir à ce qu'on pourrait faire en Europe pour se doter de ces instruments de stratégie qui conduisent en plus à des, si on veut être économiste jusqu'au bout des ongles, à corriger des défauts de coopération. Parce qu'à la fin, si l'Europe ne se désindustrialise pas et reste à la pointe en matière technologique, etc., ce sera bon aussi pour la Chine et pour les États-Unis. Vous voyez, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu qui peut être à somme positive. Donc il s'agit en fait d'avoir des politiques stratégiques pour enjamber les difficultés de court terme, voire à plus long terme, ne pas détruire du capital humain massivement alors qu'on en aura besoin dans 10 ou 15 ans, et que c'est très très coûteux et long à accumuler, etc.
Effectivement, changer de thème et revenir sur une conférence de ce matin. Je dois vous prévenir que je n'ai pas pu me rendre à la conférence de ce matin sur l'avenir de l'Afrique. Alors, l'impression qui ressort lorsque je lis le journal, c'est que la situation en Afrique évolue rapidement, autant économiquement que politiquement. Est-ce que, donc, d'une part, parce que l'ingérence occidentale semble être décroissante, que la croissance économique, enfin que l'économie se développe, est-ce que cette impression est correcte?
Ah oui, absolument, absolument. Moi, je suis convaincu que le début de notre siècle jusqu'à 2050 va être chinois, va être chinois-indien, quoi, asiatique. C'est-à-dire va clore une parenthèse qui aura duré 2 siècles et demi où l'Europe et ses colonies de peuplement s'est distinguée de l'Asie. On va retrouver des blocs qui vont être, y compris démographiquement, à peu près égaux. Et en revanche, après, c'est le siècle de l'Afrique. Parce que en 2050, l'Afrique, c'est 2,4 milliards d'habitants, autant que toute l'Asie du Sud, Inde, Chine, Pakistan, Inde, Pakistan, Bangladesh, etc. C'est beaucoup plus que la Chine, qui à l'époque a commencé à redescendre vers 1 milliard, 2 fois et demi plus que la Chine, et c'est aux portes de l'Europe, à 14 km, Gibraltar, 14 km. Le Détroit. Hein? Bon, donc il n'y a pas de question finalement économique, géopolitique plus importante que celle de l'émergence de l'Afrique, qui est dans une situation pré-émergente, c'est-à-dire qu'il est dans une situation où les choses bougent très vite. D'abord, cette explosion démographique qui fait qu'aujourd'hui, la moitié des Africains a moins de 15 ans. Rendez vous compte? La moitié a moins de 15 ans. Et en plus, ces gens-là vont beaucoup plus à l'école que leurs parents il y a 20 ans, parce que l'Afrique n'a pas fait beaucoup de progrès en termes de PIB par habitant, mais elle a fait beaucoup de progrès en termes d'indicateurs de développement humain, par exemple, éducation des filles, etc. Santé, même avec le sida. Et donc, ça, c'est sur le plan démographique, c'est la base de tout. Alors, avec un mouvement d'urbanisation gigantesque. Avec des bidonvilles qui vont proliférer, il s'agit de comprendre comment on peut faire un bidonville utile à ses habitants. Ouais. C'est tout à fait possible. Avec des problèmes de migration interne, parce que et si on voit les projections démographiques, vous voyez le Tchad en 2050, le Tchad, 35 millions d'habitants. Si vous connaissez le Tchad, il n'y a pas la place pour 35 millions d'habitants au Tchad. C'est quand même la moitié d'un désert, trois quarts d'un désert. Bon. Donc ils vont descendre forcément au Nigeria, où il y a déjà beaucoup de monde, qui est juste en dessous. Déjà, la frontière n'existe pas. Hein. Bon. Donc ça peut créer des tensions. Et je pense que les Africains vont nous apprendre ils vont nous apprendre à vivre ça politiquement. C'est là qu'on va voir comment on peut faire pour se mélanger sans s'entretuer immédiatement. Et puis, vous avez des transformations économiques, au sens où l'Afrique croît à 5% par an maintenant, depuis plusieurs années. Et que, alors certes, cette croissance est tirée par les matières premières. Ça a de graves inconvénients, que les matières premières engendrent des rentes, comme les rentes pétrolières, qui sont des sources de corruption, etc. Mais le relais de l'industrialisation va venir. Et en fait, les trois grands chantiers de l'Afrique, qu'elle aborde avec un certain dynamisme, c'est son urbanisation, sa révolution agricole, il faut qu'elle passe à une agriculture entièrement différente, intensive, et son industrialisation. Et l'industrialisation de l'Afrique, elle va se faire comme c'est faite l'industrialisation de la Chine, à partir des côtes, avec des investissements directs étrangers, qui eux viendront essentiellement des pays émergents avant l'Afrique. Donc l'Afrique va bénéficier du fait que c'est la dernière à émerger finalement, parce qu'elle pourra mettre en concurrence les investissements chinois, indiens, brésiliens, qui ne demandent que ça, pour industrialiser à partir des côtes. Voilà. Alors évidemment, ça pose de grands problèmes, parce que ça ne pourra se faire que s'il y a une certaine intégration régionale. C'est-à-dire qu'il faut. Les États africains sont tous trop petits, sauf le Nigeria. Mais même le Nigeria, en fait, Nigeria doit fait naturellement partie d'un bloc qui est la CDAO, en fait, qui va du Nigeria au Sénégal. Et c'est ça qui peut englober les pays du Sahel, qui sinon n'ont aucun avenir, coupés de la mer, ouais, qui serait le fond de ce grand espace. Bon, il peut y avoir une apparition aussi d'une espèce d'union Tanzanie, Kenya, Ouganda et Rwanda, Burundi en Afrique de l'Est. L'Éthiopie en tant que telle, toute seule, est quand même un tel poids démographique, hein, 150 millions d'habitants en 2050. Peut être un pôle de développement de l'Afrique. Le problème, c'est le Sahel et puis le cœur de l'Afrique qui apparaissent comme une zone où la stabilité, le chaos, les conflits pourraient perdurer. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on peut avoir des Guangdong qui se développent sur les côtes africaines avec une industrialisation, une urbanisation, et puis à 400 ou 500 km de là, la guerre civile. C'est ça peut-être la grande question.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Giraud, et pour vos réponses et vos interventions sur les trois thèmes cet après-midi et ce matin.
Merci. Merci.